des mensonges pour entraîner les disciples après eux. Et j'ai mis là, pour nous rappeler ce contexte-là, c'est l'apôtre Paul qui, dans le chapitre 20 des Actes, lorsqu'il quitte les anciens d'Éphèse, il leur dit « Je vous mets à charge de garder cette église, mais je vous préviens qu'après mon départ, des loups vont rentrer dans l'église, des hommes vont enseigner des choses fausses. Faites attention !» Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le livre de l'Apocalypse et que Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit « Oh, mais vous êtes devenus des gardiens, c'est formidable !» Sauf que vous avez oublié quelque chose. Tout en étant des gardiens, vous avez oublié votre premier amour. Alors pourquoi, Jean écrit-il, pour affermir la foi de ses auditeurs, consolider leur assurance. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il avait écrit son évangile pour que les gens croient. Jean chapitre 3 verset 16, pour que les gens croient. Et là il écrit son épître pour affermir, pour rassurer, pour édifier. Et c'est ce que je veux faire ces temps. L'épître établit des critères. On a un peu de mal à rentrer dans les épîtres. Les épîtres, on pense, c'est des petites lettres anecdotiques. Mais en les regardant de près, on s'aperçoit que Jean établit des principes qui font référence et qui nous permettent de distinguer, de faire le tri entre le vrai et le faux, entre l'original et la copie, entre la réalité et le fantasme, l'idée, l'intention. La Bible nous donne un outil précieux. Elle nous parle de cet outil précieux que Dieu a mis dans chaque chrétien. Qui est, à votre avis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de distinguer. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu et nous dit de temps en temps, vous savez, c'est ce petit ange qui vient d'un côté là qui fait « Ouhou, fais gaffe, t'es en train de te faire rouler. » De l'autre côté, il y a l'autre qui fait « Allez, vas-y, vas-y. » Éclate-toi. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions discerner. Et souvent, nous, chrétiens, on se laisse berner. Parce que nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu. Parce que nous ne prenons pas le temps de prier. Parce que nous disons... Parce que le frère, la personne qui se trouve en face de nous, dit chrétien, orateur, dit « Ah, formidable, il a dit !» Mais je vous rappelle que Paul a été lapidé parce que des gens mettaient en cause sa parole parce qu'ils ne vérifiaient pas dans l'Écriture si ce que Paul disait était vrai, et ils croyaient plutôt ceux qui disaient « c'est pas vrai ». Et dans notre monde, dans notre monde de l'Internet, dans notre monde du média, la vérité, l'erreur, elle est publiée tous les jours. Les chrétiens pensent, les chrétiens disent, les chrétiens devraient. Mais que dit la Bible ? Il y a trois critères fondamentaux qu'on va trouver dans ce deuxième chapitre de la première épître de Jean. On va parler, et pas ce matin, mais la prochaine fois, on va parler du critère doctrinal. Le critère doctrinal, c'est pas pour les énarques, pour les théologiens, c'est la foi. La foi en Jésus, le Fils de Dieu venu en chair. On va parler de la foi. On l'abordera la prochaine fois. On va parler du critère moral. Le critère moral, c'est l'obéissance au commandement attaché à la pratique de ces commandements. Vous savez, cette magnifique phrase que j'ai utilisée pendant 21 ans, je suis croyant, mais pas pratiquant. Et j'étais ni l'un ni l'autre. Critère moral, c'est l'obéissance au commandement, à la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit, et je m'y plie. Des fois, contre mon gré. Le critère social, c'est l'amour. Vous imaginez le critère social, le facteur social. Actuellement, voilà, on a des choses qui se passent dans notre monde et on essaye de créer un élan de générosité, un élan d'amour, parce qu'on est pris. On est pris par les images qu'on voit. On est pris par des mouvements. Mais ce qui est extraordinaire dans cette épître et dans la parole de Dieu, c'est que le plus grand critère du social, et là je ne pense pas que Gisèle me lapide si je dis ça, le plus grand, c'est l'amour. On ne peut pas aider si on n'aime pas. Si on n'aime pas les gens, alors on ne peut pas les aider. Et en plus, j'ai marqué là, l'amour pour les frères, pour les hommes, malgré leurs différences raciales, culturelles, parce qu'ils viennent d'autres cultures, parce qu'ils viennent d'autres races. Dieu aussi les aime. Dieu les aime aussi. Et Dieu a voulu mettre en moi quelque chose pour que je les aime. C'est ça le social. Parce que si j'aime, je vais prendre soin. Si j'aime pas, je vais pas en prendre soin. Jean montre que trois choses sont inséparables. Paul l'a montré avant. Mais Jean parle de trois choses inséparables. La foi, l'obéissance et l'amour. Et Paul dit même dans 1 Corinthiens 13, 13 que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il y a un danger. Et je le mets au début. Négliger l'un ou l'autre, ou le moral, ou le social, ou la foi, c'est s'exposer au développement d'une religion extérieure, comme les pharisiens, comme les esséniens. C'est avoir un rituel, faire des choses pour faire semblant, pour avoir bonne conscience, pour être bien vu. Non, il va aller, c'est un homme d'église, une femme d'église, c'est merveilleux, puis à côté. Une piété, un exercice de notre, ce que nous appelons, entre guillemets, notre religion. Disproportionnée, excessive, excentrique. C'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend quelque chose d'équilibré, rempli d'amour, motivé par l'amour. Et si, quand on parle de communion, notre seule communion, c'est de venir ici le dimanche matin, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que c'est important de revisiter cette épître. Une pratique religieuse fausse. Jean va parler trois fois. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc. Je n'ai pas affiché le verset. Dans la première épître de Jean. Et nous lirons donc à partir du chapitre 2, les versets 3 à 11, qui sont la base du message de ce matin. Si nous gardons ces commandements, 1 Jean, chapitre 2, voilà, pour que vous suivez avec moi, juste avant l'Apocalypse, c'est à la fin 1 Jean, la première épître, voilà, Jean, Jude et Apocalypse. C'est les lettres, hein, c'est pas l'évangile. Au chapitre 2, tout le monde y est. Et à partir du verset 3, nous lirons jusqu'au verset 11. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, car cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'était la parole que vous, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure en la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le premier critère qu'on va voir aujourd'hui, on va en voir deux, c'est ce critère moral. L'obéissance. C'est un mot battu en brèche aujourd'hui, l'obéissance. La soumission. On n'a plus le droit de prêcher Éphésiens 5, 22. Hein. On n'a plus le droit de parler « Femmes, soyez soumises ». C'est une atteinte à la liberté. Marie aimait aux faux femmes, il faut qu'on le dise. L'obéissance amène à un contraste, à une différence entre celui qui dit et celui qui fait. Celui qui dit, celui qui sait et qui ne fait pas, et celui qui sait et qui pratique. Verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, regarde bien, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Waouh, mes amis, est-ce que notre vie, vous imaginez, est-ce que notre vie répond à ce premier critère? Est-ce que nous sommes aux normes bibliques? Oh, mais Jean-Claude, la grâce, ah oui. La patience, ah, il en faut, hein. La miséricorde, la compassion. C'est vrai que tout ne peut pas être blanc ou noir. Nous, on a créé une zone de gris. Mais cette zone de gris, elle est très longue. Et pour arriver au noir ou au blanc, il faut du temps. Mais quand on fait le ménage, souvent, on s'aperçoit, une fois qu'on a nettoyé, que c'est bizarre, il n'a plus la même couleur, le meuble. Oh, il était de cette couleur à l'origine. Celui qui dit « Je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, celui qui n'obéit pas, est un menteur. C'est un drôle de critère quand même, non? C'est un critère qui nous pousse à l'examen. Dans la première épître aux Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 11, Paul utilise cette phrase au moment où il parle de la scène, il dit « Examinez-vous vous-même. Passez-vous à l'examen, au filtre, au scanner, à l'IRM. » Pour voir l'intérieur quelque part, pour voir nos cœurs. L'obéissance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une solution. Si finalement on fait le constat que ce n'est pas bien, que quelque part, il y a quelque chose à changer. Au verset 6, celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché. L'opposé de ne pas pratiquer, c'est de demeurer en lui. C'est-à-dire de laisser ce Dieu qui a décidé de faire sa résidence permanente. Le Saint-Esprit, il est venu habiter en nous de manière permanente. Mais on en est plus ou moins rempli. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il peut faire un peu du yo-yo dans notre vie. Avoir toute la place et avoir un peu de place. Et de temps en temps, notre moi, notre vieille personne, nos vieilles habitudes, nos nouvelles tentations, nos nouvelles lubies viennent lui dire « Hey, dégage un peu !» Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Être un chrétien, c'est pas marcher en suivant Dieu, mais c'est marcher comme lui. En renoncement, en amour, en acceptant que nous ne sommes pas parfaits. En sachant, nous l'avons vu la semaine dernière, demander pardon. En sachant, lever les yeux vers le ciel pour dire « Seigneur, c'est toi qui m'as fait la promesse. Et je m'attends à cette promesse. » Quel est notre modèle ? Souvent, nous les humains, on fixe nos yeux sur d'autres hommes, d'autres femmes, qu'on appelle des grands hommes, des grandes femmes. « Oh, c'est un homme de prière, c'est une femme de prière, c'est une femme de foi. » Et on essaye de les copier, seulement on n'est pas eux. On ne peut pas être comme eux. « Oh, j'aimerais bien être comme toi. » Il y a bien longtemps, j'avais commencé des études pour apprendre à connaître bien la Bible. Et moi, il y avait longtemps que j'avais quitté les bancs de l'école. Et évidemment, l'étude se replongeait dans les livres, se plongeait dans les devoirs, mémoriser. Je me suis vite découragé. D'autant que le seul étudiant qui était avec moi était un élève extraordinaire. Dès que le professeur nous demandait de réécrire la leçon ou de faire un résumé, il faisait pas un résumé, il faisait une thèse. Il écrivait 3 pages, 4 pages. Moi, j'écrivais 10 lignes. Et au bout de quelques temps, j'en pouvais plus. Je suis allé le voir. Je lui dis, écoute, je voudrais être comme toi. Donne-moi, comment tu fais? Et il m'a regardé, il m'a dit, Jean-Claude, tu ne devras jamais être comme moi. Jamais. Il dit, tu dois être comme toi. Pas moi. Il m'a dit, regarde à Christ, attends-toi à Christ. Il m'a dit, ne me regarde pas. Et ça a été long. Avant que finalement Dieu imprime sa vie en moi, sa connaissance en moi, et que je sache ce que Dieu voulait faire de moi. C'était il y a longtemps ça. Mais voyons, on peut regarder quelqu'un et dire, oh, j'aimerais bien être comme un tel. Mais le modèle, c'est Christ. Il demeure le modèle à suivre. Nous avons les évangiles pour les contempler, et Jean fait référence à son évangile. Et il a donné son évangile pour que nous croyions, pour présenter Christ. Et nous imprégner de sa façon d'être et de faire. Seigneur, apprends-moi à aimer. Il a aimé ses ennemis. Il n'a pas rejeté même ceux qui l'ont cloué à la croix. Il ne les a pas maudits. Nous maudissons souvent ceux qui nous font du mal, n'est-ce pas ? Seigneur, détruis-les. Oh. Seigneur, aime-les. Waouh ! Quel est notre modèle ? Cette partie d'épître nous invite à savoir, connaître et reconnaître. Savoir, connaître et reconnaître. Faire cette différence entre le bien et le mal. Entre, je l'ai dit tout à l'heure, entre la copie et l'original. 40 fois dans l'épître, dans 1 et 2 et 3 Jean, il va parler de savoir, de connaître et de reconnaître. 40 fois, dans une toute petite épître. Parce que c'est important. Parce que c'était l'époque où la copie existait. Quand on va chez certains commerçants et qu'on paye avec nos billets de 10 euros, 20 euros ou plus, ce qui est intéressant, c'est presque à chaque fois, ils le mettent dans une petite boîte pour savoir si c'est un vrai ou un faux. Et là, vous priez que quand vous avez été dans un autre magasin, on ne vous ait pas donné un faux. Pourquoi ? Parce que de faux docteurs se réclamaient d'une connaissance supérieure. Ah, nous, on sait mieux que vous. Et prétendaient en être illuminés. Pourquoi ? Pour dire, vous avez une foi, la foi de chez vous. Nous, on a la foi de chez Fauchon. Il y a une foi supérieure et une foi inférieure. Il y a une connaissance, Dieu. Il y a un modèle, Christ. Il y a un seul chemin. Et aujourd'hui, à notre 21e siècle, nous avons les mêmes faux docteurs. Nous avons les mêmes faux enseignements. Et si nous n'y prêtons pas garde, nous nous faisons aussi avoir. Il y a des façons très piégées. Et des fois, Aucune expérience religieuse n'est valable si elle n'est pas suivie de conséquences morales. C'est-à-dire, si je dis que j'aime Christ et que quelque chose ne se passe pas dans ma vie, si le fruit de l'esprit n'est pas là, alors, question. Mais nous sommes aussi en relation avec Dieu, mais aussi en relation, on l'a vu la semaine dernière, avec les frères et sœurs. Verset 3. À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Verset 4. Qui dit « Je le connais alors qu'il ne garde pas ses commandements » est un menteur. On l'a lu déjà. Nous savons que nous le connaissons si nous gardons, si nous obéissons à sa parole. Si je dis « Je suis chrétien, je connais Christ, je connais Dieu » et que nous ne le pratiquons pas, que nous n'obéissons pas, que nous n'avons pas cette valeur morale, alors nous sommes des faux témoins, des menteurs. Et repose sur nous quelque chose qui n'est pas bien. Celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. Et là, on n'a rien à... On ne peut pas se glorifier. On ne peut pas se redresser en disant « Oh, qu'est-ce que je suis bien !» Parce que si on obéit à ses commandements, on doit considérer les autres comme étant, leurs intérêts comme étant supérieurs. On doit considérer nos frères faibles pour les aider, nos frères forts pour les aimer. Waouh ! Combien en quelques versets, Dieu nous interpelle d'une façon assez brutale, n'est-ce pas ? Mais avec tellement d'amour. L'obéissance, c'est plus qu'une observation extérieure des règles. C'est une soumission du cœur à la volonté de Dieu. Soumission de cœur, faire plier son cœur. Est-ce que Dieu nous fait plier notre cœur ? Non. Je pense que quand l'amour de Dieu nous touche, il y a une chose qui vient, c'est le zèle, c'est l'envie, c'est le désir. C'est pas... Oh, c'est dur d'aimer. Tu sais, je t'aime, mais c'est dur. Quel beau témoignage, hein ? Tiens, chérie, pour ton anniversaire de mariage, j'aimerais te faire cette déclaration, c'est que je t'aime. Mais ça devient de plus en plus difficile. Essayez de faire ça un jour. Vous allez voir, vous allez un peu plomber la soirée. Le chrétien ne vit plus n'importe comment, selon ses fantaisies, ses impulsions, son caractère. Vous savez, la célèbre phrase « Dieu m'aime comme je suis ». Oui, mais il t'aime tellement qu'il n'a pas du tout envie que tu restes comme tu es. Dieu nous prend là où nous sommes, comme nous sommes. On ne doit pas changer avant. Mais Dieu nous transforme. Dieu nous polie. Dieu nous change. Déjà, il fait une chose, il nous met un nouveau cœur. Il nous met de nouveaux yeux. Il nous met de nouvelles pensées. C'est ça l'obéissance. La transformation de l'être, la soumission du cœur à la volonté de Dieu. Verset 5. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait. Et là, j'ai noté croissance. Croissance. Nous grandissons en Christ. Nous apprenons quelque chose de nouveau toute notre vie. Combien de fois, je suis surpris en lisant la parole de Dieu, en découvrant de nouveaux principes, des choses que j'ai déjà lues. Et il en est de même pour vous, je suis sûr. En méditant cette parole, de dire, tiens, ah oui, je l'avais déjà lu, mais je n'avais pas vu de cette façon-là. Grandir. Avec pour produit dans notre vie la joie, la louange, l'offrande de soi. La joie, la louange, l'offrande. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 11 versets, j'en reviens sur une chose importante. Notre relation avec Christ. Nous ne pouvons pas envisager notre communion, on l'a dit la semaine dernière, sans affermir notre relation avec Christ. Au verset 3, et 4, il va parler de connaître. Au verset 5, d'être en lui. Au verset 6, de demeurer en lui. Et à la fin du verset 6, de marcher comme lui. C'est un peu comme le psaume, vous savez, celui qui écoute, celui qui s'assoit, celui qui demeure. Ben notre relation avec Christ, elle a besoin aussi de grandir dans ce sens. Le connaître, être avec lui, demeurer avec lui, marcher comme lui. C'est positif, non? Ça nous interpelle. Moi, ça m'interpelle parce que c'est des verbes actifs. C'est pas juste « Asseyez-vous les gars, tout va bien se passer. » Mais c'est apprendre à le connaître. Comment pouvons-nous mieux aimer nos frères et sœurs? Comment pouvons-nous mieux prier pour nos frères et sœurs? En les connaissant. Apprendre à les connaître. Savoir où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs domaines de joie. Rien n'est automatique ni forcé, mais une expérience qui nous fait grandir en maturité. Grandissant. Frères et sœurs, la mission de l'Église, c'est pas d'apprendre à faire. La mission de l'Église, c'est d'apprendre à être. Plus je deviens, plus je suis capable de faire. Moins je deviens, moins je suis capable de faire. Je suis pas là pour faire plaisir à Dieu. Je suis là pour plaire à Dieu. Dans notre monde du 20e siècle, du 21e siècle, nous sommes saturés. Saturés de connaissances, mais desséchés de cœur. Saturés de connaissances. On sait tout, on a Google, hein, on a Wikipédia maintenant. On a accès à la connaissance très vite. Mais notre cœur, lui, se dessèche tellement vite. Parce que c'est pas parce que je sais que je vais changer quelque chose. Qu'en est-il de nous? De ce premier critère, critère moral, l'obéissance. Est-ce que je connais la parole de Dieu suffisamment pour qu'elle transforme ma vie? Est-ce que je connais Dieu, pas simplement sa parole, pour qu'il soit mon modèle? Pour que les gens ne voient plus ma personne, ma personnalité, mon caractère, mais pour qu'ils arrivent à voir Christ. Deuxième partie, dans les versets 7 à 11, le critère social. Ce critère social, c'est l'amour, le tissu de notre relation. Celui qui, je dirais, le scellement. Jean passe de l'obéissance à l'amour. Pas d'opposition, pas deux ennemis. L'obéissance et l'amour, c'est pas quelque chose de dur à quelque chose de bien, c'est pas quelque chose qui n'est pas compatible. Au contraire, ce sont deux compagnons. Obéir, c'est aimer. Et Dieu, quand il nous demande d'obéir, c'est pas pour plier, pour faire « Ah voilà, je voulais que tu fasses ça. Je te voulais là. » C'est parce que Dieu nous aime. Regardez comment son verset 7 par ses paroles « bien aimé ». Bien aimé, c'est une phrase qu'on passe vite. Bien aimé, faut choisir les mots. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez déjà entendue. C'est la parole que vous avez déjà entendue. Bien aimé, nous sommes bien aimés en Christ. Un chanteur qui chante le mal aimé. Mais non, on pourrait chanter le bien-aimé. Deutéronome chapitre 6, verset 5, c'est ça qu'ils avaient entendu. Hein, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et un petit peu. De toute ta force. Ouais, bah, c'est tout ce qui me reste. Hein. C'est ça, c'est mon énergie. C'est intéressant quand on est motivé, hein. Il y a des gens qui disent « Ah, je suis tellement fatigué !» Puis on les trouve, ils sont en train de courir. Ah oui, mais ça, je suis obligé de le faire. Hein. T'étais fatigué tout à l'heure. Ou on va regarder un film, hein, ou tard, le soir. Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune. Et là, si on faisait un arrêt sur image, hein, envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Tu ne te vengeras pas. Tu n'auras pas de rancune là, là. Tu n'auras pas des placards, on appelle ça dans le langage courant. Hein? Quand on dit qu'il y a des placards, ça veut dire que quand on les ouvre, il y a plein de choses qui restent. Hein? Nous, frères et sœurs, je pense qu'on a du ménage à faire dans nos placards. N'est-ce pas? Des rancunes, des amertumes, des choses que, oh, toi, je t'ai pardonné. Mais t'inquiète pas, j'ai le dossier. Brûle le dossier, mon gars. Tu aimeras ton prochain. Regardez ce que Jésus a dit. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le premier commandement. Le second, il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Il a réuni les deux. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Parce que c'est lié. On ne peut pas aimer Dieu et haïr son prochain. On ne peut pas haïr ses frères et sœurs. On ne peut pas garder de l'amertume, de la rancune, de l'animosité. Un petit plat froid qu'on va faire réchauffer au micro-ondes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Deux commandements, pas dix. Il en cite deux pour résumer l'ensemble. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Et si vous regardez les dix commandements, les quatre premiers c'est Dieu, les six prochains c'est l'homme. Jean 2, 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau. Parce que c'est quelque chose de nouveau dans votre vie. Aimez. Ce qui est vrai en lui est en vous maintenant. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Quand nous sommes en Christ, Seigneur, donne-moi ta lumière, mais je vais l'éteindre. Frères et sœurs, je le fais un peu de manière humoristique ce matin, mais c'est le problème le plus grave qui puisse nous arriver. C'est qu'en fait, nous laissions paraître la communion, la superficialité, l'hypocrisie, et qu'à l'intérieur, il y a tellement de choses encore à nettoyer. Et nous pouvons être en processus. Il y a des blessures. Il y a des blessures, je le sais, frères et sœurs, qui vont mettre du temps à être cicatrisées. Mais Dieu va mettre son baume sur notre cœur. Il y a des choses qu'on a du mal à oublier, on a des mal à pardonner. Mais imaginez que Dieu ait fait le tri entre ceux qui ont fait des choses graves et ceux qui ont fait des choses pas graves. Où serions-nous aujourd'hui? Dieu a offert à chaque homme, à un meurtrier comme l'apôtre Paul, à un peureux comme l'apôtre Pierre, à un dogmatique comme Thomas, d'être pardonné, d'être aimé. C'est pas un message pour rien. C'est un message qui va sceller notre année, qui va aider aussi au témoignage que nous voulons rendre dans cette ville. Si nous haïssons, si nous méprisons, si nous nous moquons, quel témoignage! Il parle de trois types d'hommes. Trois types d'hommes. Verset 9. Celui qui prétend. Celui qui prétend. C'est pas le prétentieux. Il y a un dé. Celui qui prétend, celui qui fait croire qu'il est dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Je veux croire. Je veux croire ce matin qu'aucun d'entre nous, nous sommes dans cette catégorie de personnes. Aucun d'entre nous, nous voulons faire croire que nous aimons Dieu, alors que nous ne l'aimons pas. Alors que nous développons à l'intérieur de la haine, La haine, c'est l'outil du diable. C'est là où nous étions avant. Je parle d'un deuxième critère d'homme, celui qui aime. Celui qui aime son frère demeure, reste dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Oh, il va tomber. Mais c'est pas en lui. C'est le diable qui viendra le faire tomber. C'est peut-être les circonstances qui viendront le faire tomber. Mais on a vu la semaine dernière qu'il avait un avocat auprès du Père qui lui le défend. J'ai déjà payé. C'en est un à moi, ça. Il est tombé. Il est tombé. Mais il va se relever. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Oh, ça va nous arriver de tomber. Ça va nous arriver d'être par terre. Ça va nous arriver de nous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais notre avocat sera là. Non pas Vergès pour valider la méchanceté, mais Jésus-Christ pour valider l'offrande qu'il a fait pour nous. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Que le Seigneur puisse nettoyer les yeux de notre cœur. Visiter, non pas notre cœur, même si nous en avons bien besoin, mais cet être intérieur qui a tellement de facilité à garder les mauvaises choses. Les malentendus entre frères sont l'œuvre de Satan, mes amis. Mais les exhortations à l'amour fraternel, au support mutuel, que nous trouvons dans la Bible, montre que nous avons des responsabilités précises. L'exhortation de ce matin, c'est « Obéissons à Dieu ». Insérons le critère social biblique, l'amour, dans nos relations. Taillé dans le vif, dans notre volonté, et nous incliner devant Christ. Je termine, pour ce matin en tout cas, que aimer, c'est se charger de sa croix. Selon le critère moral, social, les deux qu'on a vus ce matin, on verra la foi la prochaine fois. Luc 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est pas se charger d'un fardeau lourd, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire justement obéir et aimer. C'est comme ça qu'on suit Christ. C'est pas s'écraser. Vous savez, on a fait tellement d'interprétations avec ce verset. Se charger de sa croix, voilà, se laisser crucifier, vas-y. Jésus, il a dit, tout est accompli, vous n'avez pas besoin de le refaire. Je l'ai fait pour vous. C'est pas se dire, oh là, j'ai repris toute la liste des péchés, des fautes que j'ai fait jadis. C'est aimer, c'est dire Seigneur, c'est à ta parole que je veux plier. C'est toi que je veux aimer le premier, mais pour que je puisse mieux aimer mes frères et sœurs. Alors voilà, une épître, je ne sais pas, tout est fini encore, mais une épître déjà qui nous rappelle que cette communion, elle est basée sur trois axes, la foi, l'amour et le service. Mais que la plus grande de ces choses, on l'a vu aujourd'hui, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors prenons, voilà, quelques instants. Parce que c'est important de se positionner. J'aime faire ça, pas pour pouvoir compter les mains, mais pour nous aider. Parce que nous avons besoin d'être devant Christ. De nous examiner nous-mêmes. On ne doit pas être examiné par les frères et sœurs. Et de dire au Seigneur ce matin, est-ce qu'il y a un problème avec ma vie morale? Est-ce que quelque part, je ne t'obéis pas? Est-ce que ma vie, c'est moi qui la décide ou c'est toi qui la décide? Est-ce que les principes que tu laisses dans l'Écriture sont les principes de ta vie? Et puis, Est-ce que du côté de l'amour, du pardon, de la rancune, de l'amertume, il y a encore des racines? Ces racines qui sont comme le cancer, difficiles à enlever. Et elles peuvent être un cancer dans notre vie. Elles peuvent s'agrandir et nous faire mourir petit à petit, amenuiser nos yeux, amenuiser nos actions, nos sentiments, nos paroles. Alors voilà, baissons nos têtes quelques instants et que chacun d'entre nous, nous puissions nous placer devant Dieu et qu'on lui pose ces deux questions sur la question morale et la question sociale. Et que si ce matin, là, ce matin, on a compris que peut-être on est dans le verset 9 ou dans le verset 11, mais qu'on aimerait tellement être versé dans ce verset 10, celui qui garde sa parole. Il y a un pas à faire, frères et sœurs. Il y a un pas à faire. Si nous reconnaissons que nous sommes au verset 9, celui qui prétend, ou celui qui est, alors nous pouvons ce matin juste dire, lever la main vers Christ et dire, Seigneur, je ne veux pas rester là. Je suis ton enfant, je t'aime. Je veux être avec ceux qui pratiquent ta parole, ceux qui la gardent. Et pour ça, je veux vraiment que tu me visites. Je veux que tu lèves mon cœur. Je veux que tu m'aides à regarder à toi, à renoncer à ces choses qui ne te glorifient pas. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin qui aimerait juste, voilà, oui, que Dieu te bénisse, oui, que Dieu te bénisse, oui, oui, que Dieu te bénisse. C'est quelqu'un d'autre, oui, que Dieu vous bénisse, oui. C'est un engagement juste devant Dieu qui est de dire, Seigneur, par mes forces, j'ai essayé, j'y arrive pas. Je veux faire le bien, Paul le dit dans 1 Corinthiens 7, je veux faire le bien et c'est le mal que je fais. Aide-moi à faire le bien. Mais aide-moi tout d'abord à être celui que tu attends. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie? Oui. Que Dieu te bénisse. Eh bien Seigneur, notre Dieu, tu vois, ce matin, une fois encore, ta parole a touché des cœurs. L'objectif, Seigneur, c'est que nous puissions l'entendre, que nous puissions la comprendre, que nous puissions la garder et que nous puissions la proclamer. Merci, Seigneur, pour ces amis qui, ce matin, veulent, par leur volonté exprimée, ils l'ont fait en levant la main, changer de direction, que tu nettoies leur vie, que tu les aides à obéir, à aimer de meilleure façon. Seigneur, tu connais exactement leur situation de vie, tu connais leurs conflits, tu connais leurs défauts, tu connais leurs qualités aussi. Les qualités, c'est toi qui les as mis. Alors je te les remets, afin que tu les aides, Seigneur, et que ensemble, tous ensemble, oui, tous ensemble, nous puissions grandir, et que ta personne soit glorifiée dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.